Et si j'étais une chanson, tu crois qu'il me passerait à la radio?
Bien sûr, en boucle, Mimi. Certainement dans la cité du local.
Ce matin, je me suis demandé quel genre d'image on pourrait bien trouver pour parler de la fragilité. La fragilité, vous voyez, pas celle des grandes tragédies, non la petite, celle qui vous attrape au réveil quand on n'a pas encore décidé si on allait affronter la journée debout ou un peu de travers. Alors j'ai cherché, je me suis dit, ça pourrait être quoi ? Une chaise bancale qu'on continue d'utiliser parce qu'on a la flemme d'en changer, un silence trop long au téléphone, des détails, comme ça, presque rien, mais qui pèsent. Vous voyez, la fragilité du quotidien. Et puis, je me suis dit que ça ressemblait peut-être à une fête, finalement, qui tarde à commencer. Une fête où quelqu'un aurait oublié la lumière, les verres vides, traînent, les cartons sont encore là et pourtant on danse quand même. Oscar Les Vacances connaît bien ce genre de fête, lui il ramasse les petits éclats de tristesse et il en fait des confettis. Il transforme la fragilité en chorégraphie, la mélancolie en chanson, une chanson qu'on se surprend à fredonner et parfois au moment du premier café du matin, parfois avec le dernier verre du soir. Alors on se demande, qu'est-ce qui fait qu'un chanteur, un seul, arrive à transformer nos failles en refrains qu'on garde au bord des lèvres? Est-ce que c'est cette fragilité assumée? Est-ce l'humour qui n'annule pas la tendresse mais la renforce? Ou bien est-ce simplement la beauté d'être maladroit au bon moment? Demain, il sera aussi Sparkat pour le chaînon manquant. Aujourd'hui, il est là avec nous à notre micro et peut-être qu'avec lui, on va apprendre à danser un peu mieux avec nos propres failles. Voilà, c'est l'entretien d'aujourd'hui. Puis en seconde partie d'émission, on prend le temps de lever la tête vers les bulles, les cases, les traits de crayon. Le festival de la BD au pays de Château-Gontier revient les 4 et 5 octobre pour sa 15e édition au cloître des Ursulines. 70 auteurs invités, des expositions, des rencontres, un concert dessiné, des animations pour petits et grands. Un rendez-vous culturel gratuit, mais surtout incontournable. Et puis, puisqu'il faut bien une touche finale, un grain de sel, un éclat d'encre sonore, nous retrouverons en fin d'émission Donatien, notre fidèle compagnon de bande, artiste et littéraire à sa manière, qui signe aujourd'hui la toute première chronique de cette saison. Avec lui, on ne sait jamais si l'on va s'émouvoir, sourire ou partir dans une digression imprévue. Et c'est exactement pour ça qu'on l'attend, qu'on l'espère chaque mardi dans l'agité du local. Alors voilà, bienvenue à vous qui êtes là, bienvenue à vous qui tombez sur l'autre radio par hasard et qui restez, parce que parfois le hasard fait bien les choses. C'est Margot, au micro, pour une nouvelle agité du local. On est mardi 16 septembre et l'émission commence maintenant.
Vous écoutez l'agité du local.
Et c'est sur l'autre radio. On accueille maintenant Oscar Les Vacances, auteur, compositeur, multi-instrumentiste et dessinateur. Il transforme la mélancolie en fête avec des chansons pleines d'ironie et de tendresse. Il sera demain soir au 6 par 4 dans le cadre du festival Le Chaînon Manquant. Bonjour Oscar.
Bonjour.
Avec un nom comme Oscar Les Vacances, on pense tout de suite à l'évasion, la musique. Pour toi, c'est quoi? Est-ce que c'est un refuge, un moyen de s'inventer un ailleurs ou une façon d'affronter le réel avec un peu d'ironie?
Moi, je dirais que Oscar Les Vacances, ça vient un peu d'une envie d'être en vacances toute l'année. Je pense que ça vient du Sénégal. Il y a un festival de danse traditionnelle qui s'appelle Oscar des Vacances là-bas. Okay. Et j'avais fait un voyage il y a 7 ans et c'était devenu un peu mon surnom. C'est la récompense des vacances, hein, l'Oscar comme le trophée. Et moi, oui, c'est sûr qu'il y a une forme d'échappée, quoi. J'ai toujours fait de la musique depuis que je suis petit. Je faisais de la musique en vacances. Je faisais de la musique dans ma chambre, donc j'associe ça, non pas, pas vraiment un travail, mais plutôt à une forme de plaisir. Et c'est devenu un métier, mais je sais pas si c'est un métier ou toujours des vacances. Je me pose toujours la question.
Ton premier album s'appelle Ceci n'est pas mon corps. Il intrigue tout de suite. Qu'est-ce que toi tu as voulu suggérer en l'appelant comme ça?
Alors, Ceci n'est pas mon corps, c'est le mélange entre une citation de René Magritte et une citation de Jésus-Christ. Hein, ceci n'est pas une pipe et ceci est mon corps. Voilà, je parle pas mal de l'Apocalypse que j'ai écrite. Genre, j'ai écrit l'Apocalypse selon Oscar Les Vacances. voilà, donc je parle un peu de ça et de religion un peu, mais c'est pas le thème principal. Il y a beaucoup de sujets à aborder. Et c'est la relation aussi au corps. Il y a une chanson qui s'appelle Les Puceaux. Voilà, c'est Il y a le thème de la masculinité qui est aussi abordé dans l'album.
En écoutant ton album, je me dis que ce titre dit aussi un peu ta façon d'habiter le monde. Tu dirais qu'on écrit toujours avec ce qu'on est ou au contraire plutôt avec ce qui nous échappe?
Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Moi, j'aime bien l'écriture automatique. Depuis que je suis au lycée, je lisais un peu André Breton. C'est quand même écrire avec l'inconscient, c'est quelque chose qui me parle, parce qu'en fait, on apprend des choses sur nous. C'est pas nous qui écrivons, mais c'est aussi l'écriture qui nous fait. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans cette idée-là. Donc, il y a des choses qui m'échappent. J'aime bien commencer à écrire de manière inconsciente, et puis après, ça se déroule. Il y a des choses. Parfois, on part d'une idée, parfois, on part d'une phrase, parfois, on part d'une mélodie. Et j'aime bien l'idée que l'écriture m'apprenne des choses sur moi. Ça, c'est sûr.
Tu parlais justement tout à l'heure de masculinité, mais dans ton album, il y a aussi l'adolescence, les désirs, les amours inachevés et plein de références qui rappellent toute une génération, comme MSN par exemple. Si tu devais résumer tout ça par une sensation, une image par exemple, ce serait quoi ?
Une sensation, je parlerais de la chaleur des vacances où on est loin de ses amis au collège. Je parle pas mal du collège, de l'enfance. Parce que c'est à ce moment-là que les questionnements, les questions sur le monde, sur la vie, sur la société arrivent. Moi, je trouve qu'on a autour de 10 ans, il y a énormément de questions qui se posent. Même avant, mais en tout cas, moi, c'est vrai que la période, le début du collège, c'est une période dans laquelle j'aime beaucoup me replonger. Et ces sensations de vacances éternelles que sont les vacances d'été, où moi, j'ai eu ma première histoire d'amour sur MSN, du coup, il se passait... beaucoup de choses dans ma tête, et pas forcément dans la réalité. Mais ouais, ces périodes un peu vides, cette forme de nostalgie. Les musiques sont assez nostalgiques, mais qu'elles restent un peu solaires. J'aime bien que ça reste lumineux quand même. Ouais.
L'adolescence, ça a été une période plutôt positive pour toi. Alors, tu l'as passée avec une certaine sérénité?
Ouais, j'aime bien me replonger, parce que souvent les gens détestent cette période. Quand on parle de l'adolescence ou du collège, c'est des périodes assez traumatisantes pour beaucoup de gens. Moi, je dirais qu'elle a été pas facile, parce que c'est vrai qu'on découvre des choses sur soi, mais en même temps, on découvre des choses, on grandit. Mais j'étais au collège, j'avais le statut un peu privilégié d'artiste. Musicien, parce que j'ai commencé à 11 ans la musique, la batterie puis la guitare, qui faisait que j'étais quand même assez solitaire. J'avais pas beaucoup d'amis, mais j'avais pas non plus beaucoup d'ennemis, parce que je pense que les gens devaient me respecter à travers ce statut-là. Je dessinais, j'étais un peu à part. Donc j'avais un monde intérieur, je pense à cette époque-là, assez fort. Voilà, j'étais quand même respecté. Ouais, on peut dire ça. Donc au final, j'ai bien vécu, c'est des belles années de découverte intérieurement. Il a commencé à se passer plein de choses quoi, pour moi au collège.
Ton univers a un côté très fictionnel, avec des personnages étranges, presque un peu inventés. Est-ce que pour toi, la fiction, c'est une façon de mieux supporter le réel, surtout dans une époque où se projeter, c'est pas si simple?
C'est vrai qu'il y a une forme d'échappement au réel, c'est sûr. Et en même temps, le réel est triste, il n'est pas rempli de fiction. Je veux dire, on se crée des histoires depuis des milliers d'années. Je veux dire, l'histoire, c'est ça aussi qui crée le réel. Et notre réel, c'est un assemblage d'histoires qu'on apprend ou qu'on observe. C'est vrai que moi, il y a beaucoup de personnages dans mes chansons qui viennent peut-être du fait que je fasse du dessin animé à côté. C'était mon métier aussi avant de faire de la musique, je travaillais dans le dessin animé. Du coup, je pense qu'en façonnant un nouvel imaginaire, on peut aussi façonner une nouvelle réalité. Moi, je vois un peu des choses comme ça.
Justement, c'est intéressant, tu dis que tu viens du dessin animé. Est-ce que tu abordes une chanson de la même façon que tu abordais un scénario animé, par exemple?
J'essaie de ne pas avoir trop d'automatisme, parce que c'est vrai que s'il y a une manière de faire, après, on peut vite s'enlacer. Donc, il y a des chansons qui sont des histoires, des chansons qui sont des questionnements, des chansons qui sont juste des sensations, des émotions. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a des personnages qui reviennent un peu il y a un fil dans l'album, ça va être l'apocalypse. Là, c'est plutôt les amis imaginaires aussi. C'est un autre fil assez important. Et j'aime bien nommer. Voilà, il y a des personnages de mon enfance, des personnages même de ma vie d'aujourd'hui qui existent, qui sont nommés, et que j'aime bien Ouais, raconter un peu ça comme un petit théâtre, quoi.
Tu parlais tout à l'heure de masculinité. Toi, quand tu en parles dans tes textes, c'est plutôt sous une forme poétique, fragile, un petit peu décalée. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi d'assumer cette sensibilité-là et dans une époque, justement, qui bouscule beaucoup les représentations du masculin, est-ce que c'est un soulagement d'y être?
Ouais, c'est un soulagement. Bah, y a encore du chemin à faire, mais depuis que je suis petit, on m'a toujours pris pour une petite fille. Quand j'avais 9 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, et même aujourd'hui encore... Ça arrive qu'on m'appelle bonjour madame, parce que j'ai les cheveux un peu longs, peut-être j'ai du vernis à ongles, alors ça doit peut-être les gens les troubler, je sais pas, mais en tout cas, quand j'étais petit, c'était un complexe. C'est vrai, quand j'avais 7, 8 ans, ça me troublait dans ma masculinité, parce que on m'avait toujours dit qu'il fallait que j'étais un garçon et qu'il fallait que je sois perçu comme tel. Et puis c'est devenu un peu aujourd'hui, voilà, je m'assume entièrement comme un garçon. Je dirais pas comme un homme, en tout cas comme un garçon. J'ai du chemin à faire avant d'être un homme, je crois. Mais c'est quelque chose qui est devenu un peu une partie de moi. C'est-à-dire que je suis assez peut-être androgyne. J'ai toujours pas de barbe à 30 ans. C'est vrai que ça, il y a des gens que ça. En tout cas, c'est peut-être pas très commun, mais c'est devenu peut-être une forme d'identité. Quoi. Maintenant, voilà, je suis comme ça et je prends du plaisir aussi à explorer toutes les parties qu'on m'a pas apprises quand j'étais petit. C'est-à-dire que quand tu es un petit garçon et que tu pleures, c'est vrai qu'on te dit non, faut pas pleurer. Quand tu as des fragilités, on te dit non, tu dois être fort. Et c'est vrai que c'est des choses qui sont assez dures à entendre et qui ont en fait plus de sens pour moi dans la société aujourd'hui. Qui peut-être n'ont jamais eu d'ailleurs de sens. Mais en tout cas, aujourd'hui, pour moi, ça me paraît indispensable en tant qu'homme de se dire j'ai le droit de pleurer, j'ai le droit d'avoir des émotions, j'ai le droit de parler aussi de ça, mais il y a encore du chemin à faire.
C'est peut-être justement aujourd'hui une thématique qui t'oblige à écrire. Est-ce que tu dirais ça?
Il y a une forme de vulnérabilité d'écrire. Moi, c'est que des histoires très perso, des histoires d'amour. Même quand j'écris sur des histoires d'amour du collège, il y a une forme de mise à nu. Puis moi, je me découvre aussi, quoi. J'ai grandi en tant que petit garçon, c'est des choses que j'ai dû déconstruire et que j'ai plaisir à déconstruire et à continuer à déconstruire. Mais ça reste du plaisir, quoi. C'est sûr qu'il y a une forme de combat quelque part, mais j'ai envie que avant tout ce soit un terrain de jeu pour moi. Ça reste du plaisir avant d'être un combat.
Et pour l'auditeur de l'autre radio qui ne te connaît pas encore, tes textes abordent des sujets plutôt sérieux, mais la musique, elle apporte comme une sorte de contrepoint plus léger. Tu le vois comment cet équilibre, toi, de ton côté?
Ça, je pense que je tiens ça peut-être de ma mère qui est clown. Alors, je l'accompagnais beaucoup sur ses spectacles. Le principe du clown, c'est que t'es censé rire. Au final, il y a quand même, si tu rigoles pas, ça marche pas. Mais par contre, le clown peut être très profond, peut aller dans le trash. Il y avait des spectacles pour adultes qu'elle faisait où c'était vraiment du trash. Peut aller aussi dans des endroits. Très dur. Il y a une forme de profondeur parfois de vide existentiel dans le clown et qui m'a toujours fasciné, c'est-à-dire qu'il faut arriver à partir du vide existentiel à faire rire les gens. Ça, je trouve ça très beau. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours plu de me dire, tant qu'il y a une forme de légèreté et une forme de rire, il peut tout se passer derrière. Ça, c'est génial.
Sur la programmation du Chaînon Manquant, le descriptif de Oscar Les Vacances, c'est si Philippe Catherine et Dalida devaient avoir un fils, ce serait Oscar Les Vacances. Donc ça te parle peut-être, ça?
C'est des grandes références pour moi. Philippe Catherine, mais ils sont à des kilomètres, à des années-lumière, tous les deux, par exemple. Mais Philippe Catherine, dans qui il est magnifique. Et il y a un côté, j'ai aussi un petit côté un peu glamour, Donc Dalida, j'ai dit oui.
Quand tu écris, tu penses beaucoup à la scène. Qu'est-ce que tu peux nous dire de Oscar Les Vacances en live?
Il y a les personnages imaginaires. Donc il y a le cheval de l'apocalypse, Athénor, il y a Action Man, il y a Mike et Jason. En fait, il y a des personnages avec des grandes têtes de papier mâché qu'on a fabriquées. Et qui sont interprétés par deux danseuses. Donc il y a carrément des danses, il y a de la chorégraphie. Et puis moi, j'alterne, donc j'ai plusieurs instruments. Il y a deux guitares, un piano, il y a un pad électronique, il y a un synthé. Et puis je navigue entre ces personnages imaginaires et mes instruments. C'est un peu ça l'idée.
On a hâte de te découvrir. Peut-être pour terminer, si tu devais choisir un titre à faire découvrir tout de suite à l'auditeur de l'autre radio, lequel tu voudrais qu'on passe et puis comment tu pourrais nous le présenter, nous en parler?
Allez, celui que j'ai fait avec, avec MPL, qui s'appelle Les Puceaux. Voilà, parce que j'en parlais tout à l'heure, des puceaux. Alors, ça parle de du fait qu'on ait été un peu des puceaux relativement tardifs avec le chanteur de MPL. Donc, Ma Pauvre Lucette, c'est un morceau qu'on a fait ensemble, qu'on a écrit ensemble. Il voulait écrire sur ce sujet. Et puis, ça m'a parlé tout de suite. Donc, on a écrit ce morceau-là. C'est un peu une forme de mise à nu et d'amour puceau qu'on a été.
Voilà. Ok, bon, on va l'écouter tout de suite. En tout cas, merci Oscar Les Vacances pour cet échange. On te retrouvera donc sur la scène du 6x4 lors du festival Le Chaînon Manquant le mardi 17 septembre à 23h50, juste après Ferdinand et Pontex. Merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé.
Avec grand plaisir, à bientôt.
Salut, c'était moi le dernier puceau. Dans la partie j'ai perdu à 0-0. Mes yeux sautaient comme des pop-corn. J'ai payé un workshop sur YouPorn. Dernier puceau, premier de la classe. Les bras qui tombent, les yeux en essuie-glace. On m'a jamais appris la libido. J'ai pris mon gland en pierre, feuille, ciseaux. Pas de sexe, ça pue, beaucoup de patience. J'aurais dû vivre à la Renaissance. Salut, c'était moi le dernier bolos. Gorge serrée comme un churros. On était jolis garçons. On était si beaux. On avait les cheveux longs. Adorable puceau. On était jolis garçons. On était si beaux. On avait les cheveux longs. Adorable puceau.
Moi je faisais tout pour qu'on me voie dans la cour. Mais je devenais tout rouge quand on parlait d'amour. Toutes mes romances étaient imaginaires. J'avais trop peur d'aimer, j'avais trop peur qu'on m'aime. Et je faisais du bruit pour ne pas m'écouter. Dans ma tête il y avait des questions qui tournaient. Pourquoi je suis tout seul, pourquoi j'y arrive pas. Pourquoi est-ce que tout le monde l'a déjà fait sauf moi.
On était jolis garçons. On était si beaux. On avait les cheveux longs. Adorable puceau. On était jolis garçons. On était si beaux. On avait les cheveux longs. Adorable puceau. Si toi aussi tu te demandes pour moi c'est quand. Si dans ta vie il y a de la pluie, des larmes et du vent. Si tu sais que t'es prêt mais que tu sais pas comment. Et que tu crois que personne ne t'attend. T'es joli garçon, t'es si beau. Et ton regard en dit long. Adorable puceau. T'es joli garçon, t'es si beau. Et ton regard en dit long. Adorable puceau. T'es joli garçon. T'es si beau. Et ton regard en dit long. Adorable puceau.
Château-Gontier va une nouvelle fois vibrer au rythme des bulles et des cases. Les 4 et 5 octobre, le festival de la BD au pays de Château-Gontier revient pour sa 15e édition avec au programme plus de 70 auteurs, des expositions, des rencontres et des surprises autour de l'univers de la bande dessinée. Un rendez-vous devenu incontournable qui continue de grandir tout en gardant son esprit familial. Pour en parler avec nous aujourd'hui, deux des chevilles ouvrières de l'événement, Éric Lequec, président et de la association, et Michel Perrault, le vice-président. Écoutez, Éric, quelle est la particularité de cette 15e édition ?
Je dirais la thématique. Cette année, c'est celui de la mer, avec un invité d'honneur qui a beaucoup travaillé dans cet univers et accompagné d'auteurs qui également sont, des auteurs marins.
On parle pour cette année de la 15e édition. Comment est-ce que le festival a évolué depuis ses débuts et quel rôle est-ce qu'il occupe aujourd'hui dans le paysage culturel mayennais ? C'est important de le préciser, c'est un rendez-vous qui est attendu.
Oui, je pense que la bande dessinée est présente en Mayenne depuis très très longtemps, puisqu'avant il y avait un festival à Laval qui a duré quand même 16 ans. Et donc ça fait plus de 30 ans qu'il y a des manifestations autour de la bande dessinée. Pour notre part, c'est un art qui n'est pas à nos yeux assez reconnu et qu'on a envie de faire découvrir et redécouvrir. Il est trop souvent assimilé à, je dirais, des romans de Kedgar, et nous on a conscience que il est important de faire découvrir à la fois le travail graphique mais aussi narratif des auteurs de bande dessinée.
Cette année, l'invité d'honneur, c'est Emmanuel Lepage. Qu'est-ce qui a motivé votre choix et qu'est-ce qu'il apporte sur cette nouvelle édition ?
Alors, motiver le choix, je dirais, c'est tout simple. Qu'on avait d'abord pris un thème qui était celui de la mer. Et comme on a un peu de démocratie quand même dans notre association, on a établi une liste de noms d'auteurs susceptibles de à la fois faire l'affiche, mais aussi de présenter une exposition de qualité. Et Emmanuel Lepage est revenu dans toutes les bouches. Il est, je dirais, incontournable, parce que c'est l'un des, aujourd'hui, des auteurs contemporains les plus importants, et dans le domaine de la mer particulièrement. Il a beaucoup d'histoires à raconter pour être un aventurier aussi. Il a parcouru plusieurs fois le monde, travaillé en Antarctique, plus récemment aux îles Kerguelen. Enfin voilà, c'est un univers qu'il connaît très très bien.
72 auteurs sont attendus cette année. Comment est-ce que vous construisez une programmation qui puisse parler à la fois aux passionnés, mais aussi au grand public ? Puisque le grand public, vous ne l'oubliez pas du tout pour ce rendez-vous, au contraire.
C'est un travail d'une année, je dirais. On se déplace beaucoup sur les autres salons, je dirais entre 10 et 12, 13 festivals, où on a l'occasion de rencontrer des auteurs, faire des rencontres. On ne s'arrête pas uniquement sur la qualité graphique et narrative des auteurs, en l'occurrence donc ce qu'ils produisent, mais aussi ce qu'ils sont, le contact qu'ils ont avec le public lors des dédicaces, qu'ils sont aussi en dehors du festival, autour des tables et autres. Ça apporte convivialité, donc c'est un peu comme ça qu'on construit tout simplement le petit à petit la liste des auteurs qui viennent sur Château-Gontier.
Plusieurs expositions sont également proposées. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce parcours d'exposition autour de la mer justement qui va avoir lieu au sein du cloître ?
Alors, il y a en effet plusieurs expositions. Une exposition qui concerne Emmanuel Lepage, qui est l'invité d'honneur bien sûr, et une autre exposition qui est dans les fonds marins avec Gaëtan Nock, et puis Madame la Dame, qui est navigatrice, qui est peintre, qui est auteur de bande dessinée, et qui raconte là une histoire dans un album qui s'intitule « Bleu amer ».
Il y a également un auteur breton, Yann Le Sachet, qui lui parcourt les chemins de la Bretagne pour faire découvrir les petites criques, les ports et la mer en l'occurrence. Donc ça aussi, c'est une exposition intéressante qui sera proposée avec des originaux dans le cadre du festival.
La bande dessinée, c'est effectivement tourner des pages, mais c'est aussi, en l'occurrence, pendant le festival, l'occasion d'un concert dessiné. C'est une belle opportunité aussi de découvrir sensoriellement tout ce que peut l'illustration.
Ouais, là, je dirais c'est une immersion, en fait, et puis une osmose entre la chanteuse, en l'occurrence, et le dessinateur, puisque le dessinateur interprète à sa façon, avec un parcours très rapide, puisqu'il a 2 minutes 30 pour exécuter un dessin, en moyenne. Et donc, avec sa sensibilité et celle de la chanteuse, en l'occurrence, il y a quelque chose qui se crée, et qui est visuel et auditif. Donc ça, c'est un spectacle auquel on tient énormément. C'est souvent aussi l'occasion pour les jeunes enfants d'aller à leur premier concert. On a des gamins qui ne sont jamais allés dans une salle de concert et qui découvrent un jour cet univers. Et donc nous, on est très fiers de contribuer à cette découverte.
Est-ce que vous vous souvenez de votre premier coup de foudre avec une BD, avec un auteur ?
Pour ma part, je reviens à Tintin, mais je crois qu'on est beaucoup là-dessus. Moi, j'ai découvert la bande dessinée avec Tintin. Et après, j'ai découvert Gaston, les classiques, Astérix et autres, pour m'intéresser plus en profondeur, je dirais, à la bande dessinée. Mais l'appréhension de la bande dessinée se fait souvent par cet univers de Tintin qui est quand même, 50 ans après la mort, je crois, de son auteur, encore très très présent dans la tête des uns et des autres. Et surtout, les jeunes enfants s'y intéressent encore. C'est ça qui est extraordinaire. Donc voilà, c'est une belle passerelle, je dirais.
Oui, en plus, on est à un âge où pratiquement Tintin, il était tout seul, quoi.
C'est... L'art de la BD, les toutes premières, c'est arrivé quand ?
On parle de Rudolf Stopfer dans les années 1880, je crois. Et puis après, il y a eu effectivement, avant que les phylactères sont les bulles, avant qu'elles ne soient créées, il y avait un texte en dessous, où il y avait, par exemple, avec Bécassine. Bécassine, il n'y a pas de bulles. Mais bon, ça sont les grands. Et aux États-Unis, il y avait de très très grands dessinateurs et des bandes dessinées plus confidentielles qui ont été traduites en France. Je pense au Kitzhammer Kid. Il y avait après Tintin qui arrivait très vite, hein, et puis d'autres séries. Mais c'est quand même en France, la BD franco-belge en l'occurrence, qui pour nous a été marquante.
Et alors le rendez-vous que l'on donne à l'auditeur de l'autre radio, c'est le 4 et 5 octobre pour retrouver la nouvelle édition, la 15e édition du Festival de la BD au Cloître des Ursulines à Château-Gontier.
Mimi, on est à l'antenne.
Tant mieux, je t'aime plus fort quand ça s'entend.
Et puis voilà, c'est le moment où l'on ouvre une parenthèse dans l'émission, une parenthèse qui ne ressemble jamais à la précédente. Donatien est là, notre chroniqueur, notre camarade un peu poète, un peu funambule des mots. On ne sait jamais très bien par où il va commencer, ni où il va nous emmener, et c'est tant mieux, parce qu'avec lui, l'important ce n'est pas l'arrivée, c'est la promenade. Donatien, première chronique de la saison, on t'écoute.
Septembre a toujours inspiré les poètes et les chansonniers. Rappelons-nous la chanson de Gilbert Bécaud qui évoque le sable devenu froid au grand soleil et qui parle des saisonniers qui s'en retournent à leur vrai métier. Aujourd'hui, les maîtres nageurs sauveteurs ont repris leurs chères études. En septembre, Marcel Pagnol quittait ses chères collines pour entrer en sixième. En septembre, René Guicadou retrouvait l'odeur de l'encre, du bois et de la craie dans la classe de son père, où le tableau noir a cédé la place aujourd'hui au tableau interactif. Toc-toc précédait sur la porte l'entrée du directeur. TikTok verse en septembre 2025 ses inepties à des fins publicitaires dans les oreilles des chérubins. Il est aussi joli qu'ancien ce terme de chérubin pour désigner les enfants. C'est aussi, chez Mozart, un personnage des Noces de Figaro. Carabin est un mot ancien qui plaît aussi à Donatien. Le carabin désigne le soldat ou le médecin et son féminin, carabine, laisse une odeur de poudre. L'odeur de rentrée que Donatien préfère, c'est celle du café dans les studios de l'autre radio. On a plaisir à se retrouver un peu comme des enfants. On ne veut pas attirer la jalousie des copains, alors on plaisante sur les déboires de ses vacances parce que, c'est bien connu, nos petits malheurs ont toujours réjoui nos petits camarades. On se plaint sur un ton théâtral, dramatique et avec excès des 3 points que l'on a perdu sur son permis pendant les vacances à cause justement d'un excès bien involontaire dû à la distraction, la même distraction que celle qui nous faisait à l'école faire des fautes et déjà perdre des points. Là aussi, le progrès technologique qui, sous prétexte de nous simplifier l'existence, contribue largement à nous rendre la vie plus compliquée, le progrès, disais-je, a fait disparaître le képi et la bicyclette des forces de l'ordre. Même les jumelles et les motos se font rares au profit des radars traîtreusement positionnés en bas dans la descente. Rendez-nous les agents en uniforme, les gendarmes tacticiens, les brigadiers, les grippes coquins, les poulets, les hirondelles et les perdreaux. Donatien revoit Louis de Funès menant la parade sur les quais de Saint-Tropez ou sur la plage poursuivant les nudistes pour les verbaliser. Donatien, piètre musicien, chantonne les cognes de Brassens rossés sur le marché de Brive-la-Gaillarde et puis il se tait. Il rêve à l'aurore et à ces deux gendarmes chevauchant sur un sentier. Le premier portait une sardine blanche, il était brigadier. Le second portait un jaune baudrier, il s'appelait Pandore. On était peut-être en septembre, il faisait beau pour la saison.
Deux gendarmes, un beau dimanche, chevauchaient le long d'un sentier,
chevauchaient le long d'un sentier.
L'un portait la sardine blanche, l'autre le jaune baudrier.
Baudrier.
Le premier dit d'un ton sonore, le temps est beau pour la saison.
Le temps est beau pour la saison.
Le temps est beau pour la saison.
Brigadier, répondit Pandore, brigadier, vous avez raison.
Brigadier, répondit Pandore, brigadier, vous avez raison.
Ah, c'est un métier difficile, garantir la propriété,
garantir la propriété.
Défendre les champs et la ville, du vol et de l'iniquité.
Niquité.
Pourtant, l'épouse qui m'adore repose seule à la maison.
Repose seule à la maison.
Repose seule à la maison.
Brigadier, répondit Pandore, brigadier, vous avez raison.
Brigadier, répondit Pandore, brigadier, vous avez raison.
Il me souvient de ma jeunesse, le temps passé ne revient pas.
Le temps passé ne revient pas.
J'avais une folle maîtresse, pleine de mérite et d'appât.
Et d'appât.
Mais le cœur, pourquoi je l'ignore, elle m'a changé de garnison.
Elle m'a changé de garnison.
Elle m'a changé de garnison.
Brigadier, répondit Pandore, brigadier, vous avez raison.
Brigadier, répondit Pandore, brigadier, vous avez raison.
Puis ils rêvèrent en silence, on n'entendit plus que le pas.
On n'entendit plus que le pas.
Des chevaux marchant en cadence, le brigadier ne parlait pas.
Parlait pas.
Mais quand revint la pâle aurore, on entendit un vague son.
On entendit un vague son.
On entendit un vague son.
Brigadier, répondit Pandore, brigadier, vous avez raison.
Brigadier, répondit Pandore, brigadier, vous avez raison.
C'était les deux gendarmes Pandore de Stello, l'agité du local. C'est fini pour aujourd'hui. Merci à Oscar Les Vacances d'avoir été à notre micro juste avant son concert au 6x4 demain soir dans le cadre du Chaînon Manquant. Merci aussi à Donatien pour cette première chronique de la saison. Votre émission quotidienne rend l'antenne. Sa musique originale est signée Lénaïk Folzour. Mais restez bien avec nous sur l'autre radio à 19h. Vous retrouverez Béchamel Chacha qui nous a accompagnés tout l'été et qui revient ce soir encore mettre un peu de piment et de bonne humeur dans vos oreilles. À 21h, place à Frères de Chaussures sur nos ondes, l'émission rap français concoctée par Fatshu. C'est une plongée dans les textes, les sons et les histoires du rap hexagonal avec ce regard passionné et sans filtre qui en fait toute la saveur. Moi je vous dis à demain dans l'agité du local, on se posera une question délicate, Alzheimer, que reste-t-il quand la mémoire s'efface, avec Paul Chouanet de France Alzheimer Mayenne et un reportage où le jeu et le mouvement ouvrent d'autres chemins que ceux de la mémoire. D'ici là, laissez une place à vos fragilités, elles savent parfois mieux que nous où aller et puis s'il vous plaît, faites-le bien.
Alors Mimi, on leur dit au revoir ?
Oh non, juste à demain.